ça nous amène à notre prochain sujet. On va parler d'intersectionnalité qui fait beaucoup jaser depuis que la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, a refusé d'appuyer une motion proposée par Québec solidaire pour la Journée internationale des droits des femmes. La motion encourageait notamment l'Assemblée nationale là, dans l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Là, les gens qui sont pas habitués à ce vocabulaire-là, ils se disent « Wow! C'est quelque chose! » Mais quand on a le nez dans le féminisme, là, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc, on va s'y attarder avec vous ce matin. La notion d'intersectionnalité, donc, aurait refroidi la CAQ dans son adoption de la motion. Il y a Émilie Nicolas qui a rédigé une superbe chronique sur le sujet dans Le Devoir et qui nous explique ce que c'est que l'intersectionnalité. Et je la cite, j'ouvre les guillemets, « C'est un outil qui permet de mieux nommer et comprendre des inégalités sociales qu'il est difficile d'envisager si on prend les ismes isolément et donc de mieux agir sur elle. Sans une approche intersectionnelle, dit-elle, les programmes gouvernementaux ressemblent aux vêtements taille unique dans les magasins, censés faire à tout le monde, ils ne font bien à personne, sinon peut-être à la femme moyenne que ses créateurs imaginent tout seuls dans leur tête. » Hein, c'est quand même bien dit. On donne aussi un exemple dans cet article, un exemple concret. Les femmes noires sont plus à même de développer certains types de problèmes de santé que d'autres femmes. On pense notamment aux fibromes utérins. On sait aussi, grâce aux études américaines, que certains cancers, comme le cancer du sein, sont en moyenne plus agressifs chez les femmes noires. Une santé publique qui ne voit pas les couleurs ne peut pas sensibiliser adéquatement l'ensemble de la population en fonction de ses niveaux de risque. Et le personnel soignant ne peut recommander des tests de dépistage en conséquence. Et donc, en refusant de collecter des données qui permettent une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, on peut affecter très concrètement la qualité de vie et la longévité de plusieurs citoyennes. Donc ça, c'est un exemple. Et il y en a des dizaines comme ça, mais le principe de base reste le même. Quand on fait semblant que toutes les femmes sont pareilles, on ne peut pas les traiter de manière équitable. Cet outil d'analyse qui est l'intersectionnalité, il est utilisé et appliqué aussi à la Maison des femmes de Québec. Pour nous en parler, nous recevons Lynn Nguyen. Salut Lynn.
Salut Marjorie, bon matin.
Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
On s'est fait brasser le cerveau. Par rapport au refus de la ministre d'appuyer cette motion-là, quelles sont les réactions dans votre milieu?
C'est sûr que c'est des réactions qui sont négatives. Hein? Ouais. Je te cacherai pas que c'est pas une nouvelle qui est très positive pour l'avancée des femmes, pour l'avancée du droit des femmes. Il y a une phrase en particulier, moi, dans cet article-là, parce que j'ai lu aussi l'article d'Émilie Nicolas, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que l'exemple là, des vêtements taille unique, c'était un excellent exemple pour bien illustrer en quoi l'intersectionnalité, c'est important. Mais bon, il y a une phrase, moi, en particulier, outre l'intégralité quand même de l'article, qui m'a quand même fait sourciller un peu. Et c'est quand l'équipe de Martine Biron assure néanmoins qu'elle soulignera la journée du 8 mars, le moment venu. Donc, pour nous, c'est sûr que le moment venu, c'était pas mal hier, Marjorie. Ouais, je te cacherai pas quand on parle...
Hier, puis avant hier.
Hier, avant hier,
c'est ça. Tous les jours.
Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr que nous, on lutte à tous les jours à la Maison des femmes de Québec, mais dans plusieurs milieux de femmes, pour que l'intersectionnalité soit quelque chose d'acquis, soit quelque chose de normalisé, soit quelque chose, une pratique soit... courante, là, tu sais. Donc, d'entendre que le premier ministre, que l'équipe du premier ministre refuse de reconnaître l'intersectionnalité, je trouve ça un peu inquiétant quand même pour l'avenir du droit des femmes.
Quand on a appris ça, ça nous a fait dresser les poils, hein?
Oui, absolument. Il y a même aussi, je crois, l'équipe du PQ qui disait que l'intersectionnalité, c'était pas leur façon d'incarner le féminisme, mais que c'était plutôt un féministe universaliste, là, donc utiliser d'autres mots pour essayer de mélanger tout ça. Je trouve que c'est un peu aussi un recul là, pour le droit des femmes. De pas reconnaître l'intersectionnalité, en fait, comme un peu pour reprendre l'exemple d'Émilie Nicolas, c'est un peu dire que tout le monde, sans exception, a les mêmes privilèges. Fait que c'est d'une part de pas reconnaître la notion de privilège, mais de dire que tout le monde a les mêmes privilèges. Fait que si, bon, c'est sûr qu'on parlait d'une femme qui serait caucasienne, née au Québec, qui serait à l'aise avec son genre, donc qui serait cisgenre, hétérosexuelle, sans handicap, sans problème de santé mentale. Puis, on s'entend que chaque intersection est importante à comprendre. Fait que, tu sais, l'intersectionnalité, là, pour résumer brièvement, c'est un peu comme aller à l'intersection de ces oppressions-là. Quand on parle, par exemple, de genre, d'orientation sexuelle, d'appartenance culturelle ou religieuse, bon, tout ça. Et ces obstacles-là doivent être abordés évidemment, est résolu différemment. Mm. Fait que par souci d'équité, d'accessibilité et d'inclusivité. Donc, quand je réfléchissais à ça, l'intersectionnalité, pour moi, ça fait vraiment référence à l'inclusivité. Mm-hmm. Et pour qu'une société soit plus forte, évidemment, il faut que tout le monde puisse participer.
Oui, et il faut considérer les différences de chacune et chacun, parce qu'il y en a qui vont sous les principes de l'universalité ou de l'humanisme aussi. On entend souvent ça. Moi, je suis un féministe ou une féministe humaniste. On oublie de considérer que chaque femme est différente et part pas de la même place.
Oui,
et de là l'importance d'en prendre compte. La Maison des femmes, Lynn, c'est une maison d'hébergement et d'intervention pour les femmes victimes de violences conjugale, avec ou sans enfants. Les femmes qui s'y rendent peuvent profiter d'un toit, d'une cuisine collective, d'une salle de jeu, des intervenantes qui sont sur place. Vous avez choisi d'adopter une approche intersectionnelle. Pourquoi?
Absolument. Mais justement, pour faire suite à qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité, si on veut être certaine de rejoindre le plus de femmes possible, si on veut être certaine que personne se sente lésé par les services ou que personne
accueilli,
se sente
gênée. Les gens qui se sentent accueillis.
Exactement. Ouais. La violence conjugale, là, on le rappelle, ça n'a pas de couleur de peau, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de classe sociale, ça n'a pas de statut particulier. La violence conjugale touche toutes les femmes. C'est important de le mentionner. Puis, c'est important que toutes les femmes se retrouvent un peu, celles qui vivent la violence conjugale, évidemment, et même les proches qui peuvent référer les femmes ou même les professionnels de la santé et des services sociaux, les travailleurs, travailleuses en tout genre qui peuvent être en contact avec quelqu'un qui vit de la violence conjugale, c'est important que la vision d'une maison d'hébergement rende les femmes légitimes de venir. Donc, pour qu'une femme se sente légitime de venir, oui, bien sûr, il faut que la violence conjugale soit reconnue comme un problème social, il faut que ça passe plus par la sensibilisation, puis pas que ce soit seulement une femme qui reçoit des coups, par exemple. Faut
On peut parler de violence psychologique, notamment.
Oui, exactement, le contrôle coercitif et tout. Fait que c'est sûr que pour que la femme se sente bien de venir en maison d'hébergement, se sente légitime, oui, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle vit de la violence conjugale, mais il faut aussi que l'organisme en soi, il faut que les maisons d'hébergement soient des milieux où est-ce que on va avoir un langage commun, on va avoir des outils d'intervention qui vont être adaptés à toutes les femmes, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau de la vision, tu sais, d'avoir des outils qui sont agréables à regarder,
concrètement, là, ça se répercute comment dans vos approches?
Ben c'est sûr que, mettons, je vais donner des exemples. Okay? Quand on fait appel à une interprète pour que toutes les femmes puissent participer au groupe de vie communautaire, parce que dans une maison d'hébergement, on considère un peu que les femmes, c'est des colocataires. Fait qu'il faut avoir une vie communautaire, qu'il faut que ça se passe bien dans
une
la maison
d'hébergement. Une interprète parce qu'une femme parle pas le français?
Oui, exactement. Exactement. Parce que, par souci d'inclusivité, c'est sûr qu'on va accueillir les femmes qui de toute origine, tu sais, donc de toute langue, que ce soit pour participer aussi aux ateliers de sensibilisation, parce que c'est sûr que... pour que les femmes puissent reprendre du pouvoir sur leur vie, c'est pas juste d'avoir un toit pour se protéger puis se relocaliser, c'est aussi de passer de l'analyse, c'est aussi de parler de violence conjugale, de parler de la socialisation genrée, de parler des impacts du capitalisme, du patriarcat. Donc tout ça, c'est des gros termes. Justement, pour être inclusif, il faut être en mesure de bien les vulgariser.
C'est pas tout le monde qui est un universitaire ou une universitaire.
Non,
là, c'est
exactement.
Ça.
Ouais. Fait que c'est sûr que quand on a ce genre d'approche-là, quand on a ce genre d'adaptation-là, si on veut. Quand on a une intervenante, par exemple, qui va s'occuper des enfants pendant les groupes, ben ça aussi, ça peut faire du bien. Ça aussi, ça peut faire en sorte que la femme, elle va être disposée à bien participer au groupe et à être active, à se sentir légitime de participer, à se sentir valorisée aussi de participer, parce que si on prend pas compte de ces inégalités-là, si on prend pas compte de ces systèmes d'oppression-là dans notre analyse, si on prend pas compte du racisme systémique, par exemple, si on prend pas compte de l'antiféminisme ou du sexisme, bon, tout ça quand on parlait des ismes de tantôt, le capacitisme, par exemple, ben la femme peut se sentir dévalorisée, la femme peut se sentir pas incluse dans la mission, dans la reprise de son pouvoir, donc c'est important. Puis je reviens encore à ce terme-là, mais l'inclusivité, puis quand on parle d'inclusivité, ben c'est sûr que c'est favorable à toute la société, parce que si on laisse des personnes derrière, si on laisse des femmes derrière, mais ça coûte beaucoup plus cher à la société que de faire des adaptations spécifiques à leurs besoins qu'elles-mêmes nomment, parce que c'est important aussi d'être à l'écoute de ces personnes-là.
Mais des fois, moi j'entends du monde dire ouais, mais là c'est compliqué faire des adaptations pour les exceptions. On entend ça, là je me fais l'avocate du diable. Mais quand on prend, il faut prendre le temps, c'est important. Par exemple, un exemple concret qui me vient en tête, si une femme est musulmane, on peut adapter le menu.
On peut adapter le menu, c'est pas compliqué. Puis tu sais, en fait, c'est pas à nous de trouver la solution. C'est aux femmes de nommer leurs besoins. C'est aux femmes. Puis, faut avoir l'espace pour les nommer, ces besoins-là.
Oui, se sentir écouté.
Exactement. Mm. Fait qu'au final, c'est peu de travail tant que ça. Si on se donne la peine de le faire, puis si on se donne la peine de le faire une fois, ben ça fonctionne après pour les autres fois. Mm-hmm. Puis ça s'adapte, puis ça s'ajuste. Puis c'est ça qui fait en sorte que toutes les femmes peuvent se sentir bien, peuvent se sentir incluses, peuvent se sentir valorisées, peuvent se sentir importantes, participer activement à la société, à des, ouais. des citoyennes actives. Donc, c'est pas si compliqué que ça.
Quelle qualité est-ce que ça prend, la qualité ou les qualités que ça prend pour justement inclure l'intersectionnalité ou c'est, avoir ces réflexes-là dans une organisation?
Il faut être à l'écoute des femmes. Il faut être à l'écoute des femmes, de leurs besoins. Il faut voir au-delà des barrières, il faut voir au-delà de qu'est-ce qui est déjà canné. Tu sais, si on est dans une société ou si on est dans une organisation, un système qui est très rigide, c'est sûr que ça va être difficile d'inclure ces femmes-là, c'est sûr que ça va être difficile de répondre correctement à leurs besoins qu'elles-mêmes vont avoir nommés. Donc, la base, c'est de partir du besoin des femmes, toujours. Puis c'est ça l'approche qu'on a à la maison. Puis c'est une façon exceptionnelle de redonner du pouvoir là, à ces femmes-là.
Être à l'écoute, ouais, être à l'écoute, agile.
Absolument.
Et bon, ce serait quoi les conséquences maintenant pour une organisation, la vôtre ou d'autres organisations, si on fait abstraction de l'intersectionnalité?
Mais justement, par rapport à ça, il y a un excellent article qui est paru dans la presse, qui a été écrit par Sabrina Lemeltier, qui est présidente de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, une deuxième étape, brièvement, c'est une maison, un organisme qui va accueillir les femmes qui sont passées en première étape, comme la Maison des femmes de Québec, qui sont passées par l'hébergement d'urgence, puis qui ensuite ont besoin d'avoir un peu plus de temps et de soutien en hébergement. Donc, qui parle justement de l'approche intersectionnelle comme moyen de prévenir les féminicides. Mm. Donc, c'est pas rien quand même, là, quand on parle de prévenir le meurtre des femmes. Elle donne entre autres plusieurs exemples où l'intersection des oppressions a un impact majeur sur la sécurité des femmes victimes de violences conjugales. Si on pense, par exemple, à une femme en situation de handicap qui nécessite l'aide de son conjoint ayant des comportements violents, qui veut sortir de cette
relation-là. Elle peut même pas partir, là.
Non.
Elle est prise, là.
Exact.
Ah, oui.
Quand on parle aussi d'une femme immigrante qui se heurte aux barrières culturelles et langagières, qui aura nécessairement plus de difficultés si on veut à trouver du soutien pour sortir de sa situation parce qu'elle ne comprend pas les mœurs nécessairement, parce qu'elle ne comprend pas les mots utilisés quand un policier, une policière intervient ou quand que
trouver un emploi, ne serait-ce que pour l'indépendance financière,
exact.
Très difficile quand on ne parle pas la langue.
Exact. Fait que c'est des exemples qui sont
double oppression.
Beaux, mais exact, oui, c'est sûr. Fait que à l'intersection justement de plusieurs oppressions. Fait que faire abstraction de l'intersectionnalité dans une approche féministe ou dans n'importe quelle approche, en fait, c'est un peu fermer la porte à plusieurs centaines de femmes par année qui ont besoin d'un milieu sécuritaire. Puis ça, évidemment, ça passe par des services qui sont adaptés. Donc, pour qu'ils soient adaptés, il faut qu'on soit à l'écoute de leurs besoins. Ça passe par avoir accès à des interprètes le plus souvent possible, pour que ce soit pour un petit détail, que pour nous, ça soit, c'est facile à comprendre, mais que non, parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des barrières et tout. C'est avoir du financement pour adapter les maisons pour les personnes en situation de handicap, c'est avoir plus de ressources de deuxième étape pour les femmes, justement, qui ont besoin de temps pour se relocaliser. Hashtag ici crise du logement, donc ça, ça pourrait être une autre chronique.
Tellement. Non, mais quand le logement est trop cher, comment voulez-vous qu'une femme s'en aille d'un milieu violent? Ça fait partie des raisons pour lesquelles on va rester plus longtemps avec notre conjoint violent.
Absolument. Ouais. Puis, présentement, à la Maison des femmes, on est très, très fiers de travailler sur notre site web. Parce que, mine de rien, un site web, pour toi et moi, ça peut être très accessible, on est capable de lire et tout. Mais là, on travaille à le rendre audio pour que les personnes qui ont de la difficulté à lire et à écrire puissent quand même accéder au contenu du site web. On travaille aussi sur les couleurs pour que ça soit des couleurs qui sont perceptibles pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de la vision. On travaille à ce qui est plusieurs langues aussi pour que ce soit le plus large possible, pour rejoindre le plus de personnes possible. Puis c'est aussi de travailler en étroite collaboration avec des partenaires. Donc quand on parlait tantôt d'être à l'écoute des besoins des femmes, mais c'était à l'écoute de ces partenaires-là, des organismes qui connaissent beaucoup mieux que nous les différentes réalités des femmes.
Comme femmes immigrantes de Québec, par exemple.
Exact. Oui. Exact. Fait que c'est de travailler en collaboration, c'est d'être à l'écoute de ces personnes-là qui ont travaillé, qui ont documenté, qui ont des historiques, des situations de femmes qui ont répertorié avec le temps pour s'assurer que nos services puissent constamment répondre aux besoins. Puis ça change les besoins aussi.
Oui,
faut être conscient de ça. Les besoins évoluent. heureusement ou pas heureusement, dépendamment de ce qu'on fait avec, mais heureusement, les pistes de solutions évoluent aussi. Fait que c'est pour la dignité, pour la reprise de pouvoir sur leur vie que c'est l'intersectionnalité existe en fait dans la maison.
Et c'est important. Malheureusement, la CAQ ne reconnaît pas l'intersectionnalité, cette analyse différenciée non plus. Mm. En terminant, Lynn, la Maison des femmes base ses actions sur des principes féministes, dont celui-ci, que le changement individuel est une amorce au changement social et que le changement social favorise le changement individuel. La Maison a toujours été impliquée et militante pour Absolument. La cause des droits des femmes.
Avec fierté à part ça.
Serez-vous de la marche demain?
Absolument. C'est sûr qu'on va être de la marche. C'est sûr qu'on va être de toutes les mobilisations nécessaires pour le droit des femmes, pour que les femmes soient en sécurité, pour que les femmes se sentent libres, se sentent bien dans la société aussi, se sentent en sécurité surtout. Donc, c'est sûr qu'on va être demain à la marche du 8 mars pour
Lynn
la journée des droits des femmes.
Nguyen, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bonne
merci
journée.
À toi. Bonne
bye
journée.
Bye.